En septembre, en plein cœur de la rentrée littéraire, a été publié un livre passé quasi inaperçu et pourtant essentiel. Il s'agit du premier tome de l'encyclopédie galactique du satellite Gaïa. Gaïa, c'est un télescope spatial dont l'objectif est de nous livrer une cartographie jusqu'à présent inégalée de notre voisinage stellaire, recenser plus d'un milliard d'étoiles et apprendre à connaître enfin cette grande inconnue que l'on appelle la Voie lactée. Voie lactée, que savons-nous de notre univers proche ? C'est l'énoncé du problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ce voisinage galactique si proche et pourtant si lointain et si mal connu, nous avons le plaisir d'accueillir autour de la table de la méthode scientifique Françoise Combes. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicienne, professeure au Collège de France, éminente spécialiste des galaxies et de leur évolution. Nous avons également le plaisir d'accueillir Céline Rélé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicienne à l'Observatoire des sciences de l'Univers Theta de Franche-Comté-Bourgogne et vous participez au programme Gaïa au sein de l'Agence spatiale européenne, on y reviendra. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous suivre également comme chaque jour en direct sur Twitter en suivant le compte @laméthodefc. Alors pour commencer, est-il vrai, mesdames, en 2016, que la Voie lactée, notre galaxie hein, avec un G majuscule, est encore une terra incognita en très grande partie, Françoise Combes?
Oui, en fait, on a fait des progrès, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Enfin, on a fait des progrès parce que quand même, on connaît la taille maintenant. On sait que c'est une galaxie spirale. Par exemple, il y a une barre, ça on le connaît depuis 20 ans à peu près. Et donc, on peut faire une petite vue d'artiste, par exemple, comme si on la regardait par-dessus, alors qu'on est à l'intérieur et donc on ne la voit que par la tranche. Donc, c'est quand même un point de vue difficile. Donc, on commence à connaître le nombre de bras spiraux, le nombre de bras. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Par exemple, certains faisaient l'hypothèse qu'il y avait deux barres, en fait je pense qu'il n'y en a qu'une, ou à quelle vitesse tournent les bras spiraux, surtout le halo stellaire est-il fait de courants de marée ou bien provient-il d'une autre source au début de l'univers. Donc tout ça on va apprendre avec Gaïa, avec toute l'astrométrie et puis les vitesses qu'il va nous donner, on va certainement avoir beaucoup plus d'informations.
Céline Rélé, vous pensez, il faut dire que le paradoxe, le problème majeur de l'observation de la Voie lactée, c'est ce que vient de dire Françoise Combes, c'est qu'on est en plein dedans, donc c'est difficile de la regarder.
Oui, effectivement, c'est un peu comme dans une forêt, c'est très difficile de savoir le nombre d'arbres qu'il y a dans la forêt si on se trouve au milieu, ou sa forme, surtout si on ne peut pas se déplacer, puisque là, en fait, on est quand même un peu accroché à notre Terre, donc dans un petit espace dans la Voie lactée, et c'est très difficile d'avoir une vision d'ensemble de la Voie lactée, contrairement aux galaxies extérieures, comme la galaxie d'Andromède ou beaucoup d'autres galaxies, pour lesquelles c'est un jeu d'enfant de compter le nombre de bras ou de voir s'il y a une barre ou pas, notamment.
Alors, avant d'arriver à ce que nous apprend le satellite Gaïa et à cette nouvelle cartographie de la Voie lactée, hein, que d'aucuns disent révolutionnaire, hein, vraiment, il y a une prose, un enthousiasme pour cet amas de données qui est immense, je vous propose de faire, pour commencer, repartir de ce qu'on sait avant d'arriver à ce que l'on découvre, et de commencer par une sorte de carte d'identité de la Voie lactée. Comment est-ce que vous la définiriez si vous deviez comme ça la présenter, Françoise Combes, cette Voie lactée?
C'est une galaxie spirale typique. On a une certaine classification de Hubble, en fait. On a un diapason. Donc il y a des galaxies qui ont beaucoup de gaz et très peu de bulbes, par exemple. Alors la galaxie, elle est formée d'un bulbe. Quelque chose à peu près sphéroïdal au centre, tout petit, et puis un disque plat, très plat. Et puis sans doute un halo stellaire qui représente très peu d'étoiles, et puis quelque chose qu'on ne voit pas du tout qui est de la matière noire. Donc là on le sait parce que le mouvement des étoiles et du gaz nous dit qu'il y a beaucoup de matière qu'on ne voit pas. Donc ça c'est la principale de la masse, c'est dans la matière noire justement. Et cela, notre galaxie est un peu au milieu dans les types. Elle a un petit bulbe, tout petit bulbe. Elle a une barre, les bras spiraux. Elle n'est pas quand même comme des galaxies elliptiques ou lenticulaires. Donc on est au milieu du diapason de Hubble.
D'accord. Céline Rélé, elle est, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Comment vous l'expliqueriez-vous? Comment vous la définiriez, cette Voie lactée?
Donc effectivement, on parle de galaxies spirales, donc un système très très plat, et avec donc ce disque qui s'étend sur 100 000 années-lumière. Donc voilà, si on pouvait se déplacer à la vitesse de la lumière, il faudrait environ 100 000 ans pour la parcourir de part en autre. Et avec également une population, c'est une population d'étoiles en fait qui constitue cette galaxie, environ, alors on va dire 120, 150 milliards d'étoiles, on ne sait pas exactement, mais c'est ce qu'on suppose avec les modèles que l'on a aujourd'hui. Donc des étoiles comme le Soleil, des plus brillantes, des plus petites, des plus grosses.
C'est plutôt des étoiles par rapport aux autres galaxies, plutôt des étoiles jeunes, plutôt des étoiles vieilles, est-ce que c'est un panachage de tout ?
C'est un panachage de tout, hein, les galaxies sont formées d'étoiles qui ont entre 0 et 14 milliards d'années, on va dire. Il y en a qui se forment aujourd'hui. Il y en a qui sont effectivement très vieilles, qui datent pratiquement du début de l'univers.
La Voie lactée, ce que vous me dites, c'est que la Voie lactée est encore active, c'est-à-dire qu'il y a encore des étoiles qui se créent, qui apparaissent au sein de la galaxie.
Là, dans les parties où il y a du gaz, principalement dans le disque de la galaxie, il y a des formations d'étoiles qui se font à partir de grands nuages de gaz qui se fragmentent, et chaque fragment va se condenser, se contracter pour former éventuellement une étoile.
C'est une production soutenue, il y a beaucoup de création de nouvelles étoiles, ou est-ce que c'est au contraire plutôt plus lent que d'autres galaxies ?
C'est pas très soutenu dans des galaxies comme la Voie lactée. Il peut arriver que s'il y ait des flambées de formation d'étoiles quand il y a des interactions avec d'autres galaxies.
Alors, on va continuer à parler un peu de cette Voie lactée. Déjà, on l'a dit, il y a des étoiles dans la Voie lactée qui sont des étoiles très vieilles, d'autres plus jeunes. La galaxie en elle-même, on lui donne quel âge à peu près, François?
Ah, c'est une question très difficile à répondre, parce que sans doute, elle est née pas comme elle est aujourd'hui. Donc, elle est née sans doute en fusionnant des galaxies plus petites. Donc, ce qui est né il y a 13 milliards d'années, au tout début, sont des petites galaxies, peut-être pas à peine plus gros qu'une galaxie naine ou qu'un amas globulaire. Et ensuite, ça fusionne, ça peut former des galaxies plus petites. Et puis ensuite, donc, comment dater le début, en fait, hein, c'est la dernière grosse fusion avec une galaxie de même taille date de 8 milliards d'années, la moitié de l'âge de l'univers. Donc on n'a pas eu de grande fusion comme notre copine Andromède est en train de fusionner, en fait, à une grande... On voit qu'il y a des perturbations, des courants de marée, etc. Notre galaxie est très calme. Depuis une milliard d'années, elle est très calme. Elle n'a qu'un des petits compagnons comme l'image Magellan.
Il faut peut-être préciser ici, parce que c'est vrai, quand on pense galaxie, on a dit la Voie lactée, c'est une galaxie spirale. Il y a d'autres formes de galaxies. Toutes les galaxies ne ressemblent pas à des spirales. Par exemple, le nuage de Magellan.
Voilà, c'est une galaxie irrégulière, en fait. C'est une galaxie quand même qui a beaucoup de gaz, mais qui n'est pas très évoluée. Donc, elle n'a pas formé beaucoup d'étoiles par rapport à son gaz. Par contre, on a aussi des galaxies très évoluées et vieilles, en fait, qui ont des étoiles rouges et très vieilles, qu'on appelle galaxies elliptiques. Il n'y a presque plus de gaz. Elles ont tout consommé. Sommet, en fait. Donc on est un petit peu au milieu, on forme quand même 2 ou 3 masses solaires par an. Mais ces petits compagnons, ces petits satellites, c'est même pas 10% de la masse. Et donc ça va sans doute fusionner avec la Voie lactée à un moment donné. C'est en train de perturber la Voie lactée un tout petit peu, mais n'a pas de grands événements.
Elle est, il faut le dire, comme tous les corps astraux, cette galaxie, elle est en mouvement.
Ah oui, elle se déplace. Alors déjà, on est dans un groupe local, on est dans une petite banlieue, en fait, hein, d'un amas de galaxies, qui ensuite il y en a Virgo, par exemple, les grands amas, et on a un super amas de galaxies qu'on appelle l'Aniakea, qui a été découvert par Hélène Courtois et Brent Tully.
Il y a très peu de temps, il y a 2 ans.
Donc on sait qu'on fait partie d'un très très grand ensemble, et qu'il y a sans doute un grand attracteur qui est un grand amas de galaxies qui est derrière la Voie lactée, donc on n'arrive pas à le voir, sauf dans l'infrarouge ou dans le gaz 21 cm. Et ce grand attracteur, sans doute, est à l'origine de la vitesse que nous avons par rapport au référentiel qui est celui du fond cosmologique, le référentiel au repos de l'univers, si on peut dire. Et on est à la vitesse de 600 km par seconde.
Est-ce qu'on peut aussi prendre le temps, finalement, de rappeler l'origine du nom de cette Voie lactée? Parce qu'on l'appelle Voie lactée, maintenant, c'est un nom commun, mais les origines de ce nom, Céline Rélé, sont assez amusantes, c'est des origines mythologiques.
Oui, donc la mythologie grecque, notamment... Donc c'est l'un des fils de Zeus qui a été mis sur le sein des rats.
Et, Héraclès.
Héraclès qui a été mis sur le sein des rats et qui, quand elle s'en est aperçue, l'a repoussé. Et ça a fait donc une giclée de lait qui fait donc cette trace qu'on appelle, qui a un aspect laiteux quand on la regarde à l'œil nu. Hein, la voie lactée a un aspect laiteux. Si on la regarde avec un instrument, on s'aperçoit en fait que c'est des milliers d'étoiles qui font cette lumière diffuse. Et donc avec une trace qui traverse le ciel, puisque c'est en fait le disque de notre voie lactée que l'on voit donc de l'intérieur par la tranche et qui trace un chemin, une voie.
C'est ça, parce que ce qu'on voit, donc cette vaste trace blanche dans le ciel, c'est aussi parce que la voie lactée, par rapport à nous, on n'est pas dans le plan de l'écliptique, hein, c'est ça, Françoise
Combes? Oui, c'est ça, on a un certain angle par rapport au plan de l'écliptique. Par contre, ce qu'on voit, c'est un bras spiral. Mais on ne voit pas très loin, en fait, dans la Voie lactée. On voit le bras spiral tout proche du Soleil. Et si on veut voir le centre de la Voie lactée, il faut aller en infrarouge, qui traverse la poussière. Parce qu'il y a beaucoup de poussière, hein, quand même, dans la Voie lactée, associée au gaz, et qui nous cache les étoiles derrière. Donc, si on veut vraiment aller profond, alors il y a de superbes images en infrarouge. Kobe, par exemple, en avait fait quelques-unes. Et alors là, on a l'impression qu'on voit la galaxie comme si elle était extérieure à nous-mêmes.
Et justement, alors, puisque ça, c'était un peu sur la... cette carte d'identité de la Voie lactée, par rapport à cette Voie lactée, nous, notre système solaire, il se trouve où? On est près du centre, loin du centre, on sait se situer? Françoise Combes?
Oui, on est à peu près à 8 000, enfin, c'est-à-dire 12 000 années-lumière du centre. On est un petit peu au milieu du disque optique d'étoiles. Il faut dire que le disque optique, il ne termine pas la galaxie. On prolonge avec du gaz. Il y a beaucoup de gaz d'hydrogène atomique qui poursuit jusqu'à 50 fois plus à la distance du Soleil. Donc on est un petit peu au milieu des étoiles. On n'en est pas au centre.
Qu'est-ce qu'on sait justement de notre entourage à nous, de ce bras? On est sur l'un des grands bras de la spirale. On sait se pointer exactement, ou est-ce qu'il y a encore des doutes sur la position et sur la structure exacte de ces bras spiraux, Céline Rélé?
Il y a encore des doutes complètement sur le nombre de bras spiraux. Il y a des études qui sont pas en contradiction, mais certaines qui vont montrer qu'il y a deux bras spiraux plus importants que d'autres. Donc bon, on suppose qu'on est au niveau, effectivement, comme le disait Françoise, de ce qu'on appelle un bras local, mais c'est quelque chose qui est assez difficile à cartographier, les bras spiraux.
En fait, ça dépend pas mal de la longueur d'onde à laquelle on regarde. Si on regarde en infrarouge, donc les vieilles étoiles, la masse est dans les vieilles étoiles, il y a plutôt deux bras. Et puis, lorsqu'on regarde dans les étoiles jeunes, qui émettent beaucoup aussi en nébuleuse H-alpha de l'hydrogène ionisé, à ce moment-là, il y a plutôt quatre bras, il y a des branchements qui se font. Et ça, c'est vrai dans les galaxies extérieures aussi, c'est-à-dire que quand on regarde l'infrarouge, on voit une superbe structure spirale à deux bras. Et puis, des branchements apparaissent dès qu'on regarde des étoiles plus jeunes.
Et donc, ça rend difficile de trancher pour savoir s'il s'agit de comment cartographier, comment représenter exactement ces galaxies?
Non, en fait, les vues d'artistes, finalement, convergent. En fait, on arrive seulement à faire des vues d'artistes, hein, puisqu'on n'a pas de photographie vue d'en haut. Les vues d'artistes convergent en deux bras. Et puis, en effet, il y a peut-être quelques petits branchements qui sortent de ces deux bras, mais en fait, c'est vraiment deux bras.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on disait que la Voie lactée est une galaxie spirale. Ça, tout le monde s'accorde là-dessus. Vous disiez tout à l'heure, Françoise Combes, qu'il s'agit d'une spirale barrée, puisqu'il y a deux types de galaxies, les galaxies spirales et les galaxies spirales barrées. Et même ça, il reste encore des doutes. C'est pas tout à fait clair.
Non, sur la barre.
Sur la barre, on est sûr maintenant.
Oui, tout le monde est d'accord. Et même avec, lorsqu'on va dans l'espace, donc Kobe était le premier à faire cela, à regarder tout le ciel, donc à regarder Kobe dans les longueurs d'onde infrarouges. Et on voit la barre parce que elle s'approche de nous, c'est-à-dire qu'on a un côté proche, un côté lointain. On a un effet de perspective, comme une barre, là, un bâton. Et en hauteur, la barre est plus... celle qui vient vers nous, elle est plus haute que celle qui est derrière. Donc on voit la perspective, on voit vraiment qu'il y a une barre.
Une autre question autour de cette carte d'identité, un peu, ou de ce panorama qu'on peut faire de la Voie lactée, c'est que vous évoquiez tout à l'heure le centre, hein, ce qu'on appelle le bulbe. Est-ce qu'on sait exactement ce que c'est que ce bulbe lumineux au centre, ce qu'il y a au milieu de notre galaxie, Céline Rélé?
Donc c'est une région qui est assez difficile à observer, puisque c'est là où se concentrent, en fait, les poussières se concentrent dans le disque, donc qu'elle cache vraiment le bulbe qu'on arrive maintenant depuis quelques années à mieux comprendre, mieux observer dans l'infrarouge, qui est moins sensible à l'absorption par les poussières. Et donc c'est effectivement une zone encore difficile, qui n'est pas très, très bien connue. Donc on imagine que c'est une région avec des étoiles assez anciennes, mais on a découvert récemment qu'il y avait aussi la formation d'étoiles dans le bulbe, qui est quelque chose d'assez peu, auquel on s'attendait peu.
Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'il y a une rotation autour de ce centre, Françoise Combin. C'est-à-dire on disait que la Voie lactée bouge, mais nous-mêmes, notre système tourne autour du centre de.
Oui, le Soleil tourne à environ 200-220 km par seconde autour du centre, comme toutes les galaxies spirales, quand il y a une vitesse de rotation. Et si je reviens vers le centre, en effet, on a beaucoup d'études qui sont intéressées au centre, parce qu'il y a un trou noir dans chaque galaxie, donc les gens sont vraiment intéressés au trou noir. Et donc,
alors, il y a un trou noir, il y a plusieurs trous noirs, mais il y a un trou noir supermassif.
Voilà, supermassif, parce qu'en effet, à chaque fin de vie d'une étoile, on peut avoir un trou noir si l'étoile est massive, donc on doit avoir des milliards de trous noirs dans la Voie lactée, mais ils sont tout petits. De masse stellaire. Par contre, dans chaque galaxie, on sait qu'il y a un trou noir supermassif. Alors le nôtre, il n'est pas très gros, il ne fait que 4 millions de masses solaires.
Pas très gros.
Dans certaines galaxies, c'est plutôt des milliards de masses solaires. Donc il est 4 millions, c'est pas très gros.
Qu'est-ce qu'on sait? Alors parlons-en de ce trou noir supermassif. Comment on l'a observé? Qu'est-ce qu'on en connaît? Et qu'est-ce qu'on sait de ses propriétés, de ces trous noirs supermassifs, qui sont effectivement pas les même que les trous noirs stellaires, qui sont plus lourds, plus gros et qui sont moins bien connus, j'ai l'impression, Françoise Combin.
Oui, en fait, celui de notre propre galaxie, c'est le mieux connu, puisqu'il est tout proche par rapport aux autres. Et on le connaît parce qu'on a justement le mouvement des étoiles en infrarouge, avec une optique adaptative, donc qui permet de s'affranchir de la turbulence de l'atmosphère. On arrive à avoir les mouvements propres des étoiles. Il y a deux groupes, un en Californie et un en Europe, qui ont fait cela. Et donc, on arrive sur 10 ans à avoir les étoiles qui tournent autour du trou noir et on arrive à en avoir la masse. Donc, il y a des vitesses de 1000 km par seconde, là, de ces étoiles qui tournent. Et on a vu, en effet, qu'il y avait des étoiles très vieilles, mais il y a aussi des étoiles jeunes. Et on pense qu'elles se sont formées sur place parce qu'il y a beaucoup de gaz au centre, le gaz moléculaire qui forme les étoiles est vraiment un maximum au centre.
Ce trou noir supermassif, c'est une relais, ça veut dire que, en quelque sorte, la galaxie s'effondre sur elle-même ?
Non. En fait, le trou noir a un certain rayon d'action qui dépend de sa masse et donc il va effectivement aspirer la matière, le gaz, les étoiles qui se trouvent dans ce rayon, mais pour nous, à la distance à laquelle on est du centre galactique, ça ne change pas grand-chose que ce soit un trou noir supermassif ou 4 millions d'étoiles de masse solaire.
Comment est-ce qu'on explique justement ce qu'on appelle les forces de Marie dans son voisinage qui sont si faibles que ça par rapport au trou noir stellaire plus classique? Comment on explique la faible attractivité de ce trou noir? On sait l'expliquer, Françoise Combin?
Oui, on sait l'expliquer. En fait, c'est juste la gravité ordinaire. Et puis surtout, les forces de Marie sont d'autant plus faibles que le trou noir est gros. C'est-à-dire que il y a un horizon du trou noir. Un horizon du trou noir, c'est justement le rayon au-delà duquel il faudrait avoir plus que la vitesse de la lumière pour en sortir. Donc quelqu'un qui s'aventure à l'intérieur de l'horizon n'arrivera pas à en sortir. Si le trou noir est d'un milliard de masses solaires, on ne s'aperçoit même pas qu'on passe l'horizon. Un astronaute, par exemple, rentrerait... parce que la densité moyenne est d'autant plus faible. La masse d'un trou noir est proportionnelle à son rayon, à son horizon. Donc la densité va décroître énormément si le trou noir est massif. Donc justement, 1 million ou 1 milliard de masses solaires, les forces de Marée sont très faibles par rapport à un trou noir d'une masse stellaire. Alors là, les forces de Marée sont très fortes.
Y a, à proximité de ce trou noir, juste à côté, une source radio aussi. Vous pouvez nous en dire un mot?
Oui, c'est Sagittarius A star, qui est connu depuis longtemps. Elle est très faible, c'est-à-dire que le noyau actif, on appelle ça noyau actif lorsque le trou noir accrète de la masse et fait de rayonnement, etc. Il est très peu actif, notre noyau, hélas. Donc il fait un 100 000ème de ce qu'il pourrait faire comme activité, donc il est très peu actif. Mais quand même, comme il est très proche, on arrive à avoir une source radio et de temps en temps, elle a des sursauts comme ça. De même, en rayons X, en infrarouge, on a des sursauts qui font un petit quart d'heure comme ça.
Pourquoi vous dites hélas, elle est très faible?
Oui, parce que justement, on aimerait connaître ce qui se passe dans un noyau actif. Donc on regarde toutes les galaxies extérieures, des galaxies de Seyfert. On observe celles qui rayonnent 100 000 fois plus pour la même masse, mais qui sont très loin. Alors là, on a un trou noir très proche, et puis il n'est pas actif, on n'arrive pas à détecter l'activité de ce noyau, voir les phénomènes physiques qui ont lieu dans ce noyau. Donc s'il était actif, justement, en 2013, il y avait un espoir, parce qu'on a vu un petit nuage de gaz qui semblait tomber sur le centre galactique, et beaucoup d'astronomes se sont mis à observer tout d'un coup. C'était l'été 2013, il devait tomber, donc on devait avoir un phénomène, un feu d'artifice, et puis rien ne s'est passé, on s'est trompé complètement, c'était pas un nuage de gaz, c'est sans doute une enveloppe de gaz autour d'une étoile, et il est resté autour de l'étoile, et il est reparti aussi sec.
Déception. Je vois Céline Rélé qui approuve, c'était une déception. C'est un peu une déception, il est pas, pour vous, astrophysicienne, ce trou noir supermassif du centre de la galaxie, cette faible activité-là, vous confirmez ce que dit Françoise Born ? Combe, pardon.
Je ne m'étais jamais posé la question comme ça.
Alors, il y a tout de même un événement qui va se produire, pas tout de suite, mais c'est qu'il y a un autre. Il y a un second trou noir à côté du trou noir supermassif, beaucoup plus petit et beaucoup plus léger, et qui devrait fusionner avec le trou noir supermassif dans quelques milliers d'années, c'est ça ?
On n'est pas sûr de ça.
On n'est pas sûr.
On n'est pas encore sûr, je ne sais pas. Est-ce que tu as des nouvelles ?
C'est quoi ce second trou noir, Céline Rélé ?
Non, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement.
Je pense que sans arrêt, il y a peut-être des. Bon, on connaît des sources ultralumineuses en rayons X, par exemple. On ne sait pas exactement quelle masse de trous noirs existe là-dessus. Ça pourrait être des trous noirs de masse stellaire. Et il y en a qui cherchent depuis longtemps des trous noirs de masse intermédiaire, parce qu'on a deux classes, les trous noirs de masse stellaire et les supermassifs. Et entre-temps, on n'a rien, on a les masses intermédiaires, on ne sait pas ce qui se passe. Et certains, lorsqu'il y a des sources ultralumineuses en rayon X, on dit, oh, c'est très actif, il doit y avoir un gros trou noir. En fait, non. Très souvent, non.
Et par rapport à vous l'avez dit tout à l'heure, Françoise Combe, on est dans un super amas de la Vierge, même dans un super amas qui s'appelle la Niakea. Est-ce que on sait, est-ce qu'on a une idée de la position, de l'endroit où on se situe dans l'univers visible, si on est aux marges de l'univers, à quel endroit c'est une question difficile, mais à quel endroit on pourrait se situer ?
Alors, il y a deux réponses à cette question. Il y a justement dans la Niakea qu'on fait Brent Tully et Hélène Courtois, on sait qu'on est au bord de cette super amas locale. Hein. On est un petit peu au bord, donc on n'est pas du tout au centre. Par contre, l'univers, alors là, l'univers est infini. Donc, alors on est toujours au centre de l'univers observable, puisque l'univers a un horizon qui est que finalement les galaxies au-delà de l'horizon mettraient plus que l'âge de l'univers à nous faire parvenir à un photon. Donc il y a certainement des galaxies qu'on ne peut pas voir, et comme l'expansion s'accélère, on verra de moins en moins. Donc ça, c'est un petit peu une déception aussi. Mais enfin, l'univers est infini, donc on ne peut pas être au centre.
Et on vient de le dire, hein, notre galaxie, comme nous-mêmes et comme tous les corps astraux, sont en mouvement. La galaxie est en mouvement, et en mouvement particulièrement rapide. Vous l'avez dit, Françoise Combe, tout à l'heure. Bonjour, Céline Lozen.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes.
Et depuis le début de l'émission, puisqu'il est 16h23, je viens de faire un petit calcul. La Voie lactée, donc nous-mêmes, et donc vous aussi, Céline, on a tous parcouru plus d'un million de kilomètres.
Oui, et 1 134 000 kilomètres pour essayer d'être plus précis, Nicolas. En effet, oui, la Voie lactée bouge très vite. On estime sa vitesse, comme vous l'avez dit, à 630 kilomètres par seconde. Mais il y a une énigme sur l'origine de son mouvement. Elle est attirée par un point, mais on ne sait ni par quoi, ni où elle va. Les astrophysiciens ont donc fait des mesures sur des dizaines de milliers de galaxies pour essayer de comprendre ce qu'il se passe à plus grande échelle. Ils ont ainsi pu mettre en évidence deux causes qui expliqueraient le mouvement des galaxies, le grand attracteur et le grand évacuateur.
Alors le grand attracteur, Françoise Combe, on en a dit un mot tout à l'heure, mais il va falloir nous expliquer ce que c'est grand attracteur et grand évacuateur.
Ah oui, je vais vous demander un petit effort de concentration parce que c'est pas si évident, Nicolas. Notre galaxie, notre galaxie est située dans un amas qui lui-même est situé dans un super amas. Ces groupes sont sous l'influence de courants cosmiques et ces courants sont générés par des zones de surdensité et de sous-densité de la distribution de matière. Là où il y a des surdensités, il y a attraction. Là où il y a sous-densité, il y a évacuation. Tout ce balai galactique se déploie dans ce que les scientifiques appellent le Cosmic Web. Je suis allée voir Daniel Pomared, astrophysicien au CEA Saclay, à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Lui, avec une équipe internationale, a pour la toute première fois réussi à reconstituer en trois dimensions ce Cosmic Web. On l'écoute.
Une des questions à laquelle on cherche à répondre, c'est comment se situe notre galaxie, la Voie lactée ? dans une certaine hiérarchie de structures, et en particulier cette structure qu'on appelle le Cosmic Web.
Vous arrivez à estimer sa vitesse et sa direction dans les trois dimensions de l'espace?
Oui.
Par rapport au fond diffus cosmologique ou en référentiel?
Oui. Alors, la compréhension ultime de notre mouvement de 630 km par seconde dans l'univers serait que les courants cosmiques ont une structuration en répulsion et attraction. Alors, j'ai développé un logiciel de visualisation de données en trois dimensions qui permet de cartographier le cosmos en utilisant différentes techniques de représentation. Notre mouvement serait provoqué non seulement par l'attraction de ces attracteurs, mais il y aurait une part très significative, voire même dominante, qui proviendrait de l'évacuation d'une sous-densité géante qui se trouverait à proximité. Donc cette sous-densité serait essentiellement caractérisée par des vides, par des régions vides de l'espace, donc à plus grande distance que le vide local, en périphérie de laquelle la galaxie est située. Alors je vais vous montrer des représentations.
Je vois que sur votre écran, il y a beaucoup de codes.
Voilà, donc là, on a une représentation, en fait, où vous pouvez reconnaître le Cosmic Web, la cartographie du Cosmic Web, donc avec ici la Voie lactée, le mouvement auquel elle est sujette, et nos analyses du champ de vitesse en trois dimensions nous montrent, en fait, que le champ de vitesse est une structure avec une évacuation d'un endroit essentiellement vide, d'un endroit, disons, sous-dense, vers un endroit sur-dense. Ce champ de vitesse reconstruit nous indique que la matière est attirée vers des points de convergence qu'on appelle des attracteurs.
Et est-ce qu'on connaît l'origine de ces attracteurs?
Ben c'est simplement la résultante de toutes les sources gravitationnelles qui existent dans ces régions.
Donc ce n'est pas encore un objet mystérieux. L'attracteur, c'est vraiment quelque chose en parfaite cohérence avec le modèle standard et les prédictions.
Oui, c'est ça. On est dans un cadre théorique qui est celui du modèle standard de la cosmologie. Nos reconstructions donc, utilisent les paramètres du modèle standard et le résultat qu'on obtient est tout à fait en accord. Là, on voit sur cette représentation la reconstruction en trois dimensions des lignes de courant. Vous pouvez faire l'analogie avec la météorologie. Quand on voit des cartes de météorologie, elles sont souvent conçues en termes d'anticyclones et de dépressions qui indiquent comment les courants atmosphériques sont structurés. Les vents typiquement allant de l'anticyclone avec les hautes pressions vers la dépression qui marque les régions de basse pression. Là, on a simplement des mouvements des courants cosmiques des endroits sous-denses, donc par analogie basse pression, vers les endroits sur-denses, par analogie qui sont à haute pression. Et ce que je vais vous montrer maintenant, qui est la reconstruction du Cosmic Web.
C'est un programme informatique que vous avez codé vous-même?
Voilà. Donc je relance toujours le même programme, mais qui va faire face à différentes situations, pour lesquelles je vais demander à travers des scripts d'afficher telle ou telle quantité qui sont intéressantes.
C'est marrant, j'ai l'impression de voir des radiographies.
Oui. Alors là, on représente une structure qui est obtenue par l'analyse des courants cosmiques. Et vous voyez qu'il y a une représentation qui a été superposée des lignes de courant qui sont canalisées le long des filaments pour se diriger vers le cœur des superamas de galaxies. Là, vous avez différents nœuds du Cosmic Web qui sont reconstruits. Le Grand Attracteur, Chapelet. C'est donc une région de l'espace où il y a une grande concentration d'amas de galaxies et dont on soupçonne qu'elle contribue à notre mouvement de 630 km par seconde par rapport au fond diffus cosmologique. Ici, vous avez une région qu'on appelle l'Épus. Ici, vous avez Hercule. Si on voit ce qui se cache derrière, vous avez ici Coma. Ici, vous avez Persée-Poisson. Et vous voyez comment ces différents nœuds sont reliés les uns avec les autres, avec ce système de filaments en trois dimensions. Et les lignes de courant convergent vers cette zone en rouge qui est le grand attracteur. Là, je suis en train d'agir sur mon logiciel pour qu'il y ait moins d'informations. Et là, on va passer dans un mode où on peut naviguer autour de cette structure.
Là, vous pouvez regarder la structure dans les moindres détails en la tournant dans tous les sens.
C'est un véritable système de navigation autour de cette cartographie tridimensionnelle du Cosmic Web. Alors là, je vais représenter notre superamas de galaxie. Voilà, donc vous venez de voir apparaître une enveloppe en trois dimensions, une enveloppe géante. Et donc vous voyez se reconstruire une sorte de division naturelle de l'univers en cellules adjacentes, chaque cellule étant associée à un bassin d'attraction et donc à un superamas de galaxies. Et à travers ce réseau de cellules se développe et court ce fameux Cosmic Web. Alors ça, c'est ce qu'on obtient donc avec ce catalogue de galaxies Cosmic Flows 2. Et on espère que dans l'avenir, avec notre nouveau catalogue de galaxies, Cosmic Flows 3, on va être en mesure de délimiter les superamas voisins.
Une poche encore plus grande qui envelopperait ces deux superamas.
Oui. C'est quelque chose qui n'a pas été publié encore et qui fait l'objet d'un article qu'on a soumis et qui devrait être publié.
Voilà, on est à la pointe de la recherche puisqu'on vous parle d'informations qui sont en cours de publication dans les revues scientifiques. Une réaction, Françoise Combes, Céline Rélais, à ce Cosmic Web, à cette notion de grand attracteur qui expliquerait en partie la vitesse de notre Voie lactée.
Oui, je pense qu'on a l'habitude de voir dans les simulations cosmologiques ce genre de Cosmic Web, en fait, des filaments à l'échelle de l'horizon de l'univers, en fait. Donc, il s'agit là de l'univers local. Puisqu'il y a des milliers de galaxies qui ont été vues, la Nyakea, c'est vraiment notre banlieue, mais on sait que jusqu'au bord de l'univers, on a des filaments, des amas de galaxies, etc. Et dans les simulations cosmologiques, c'est ce qu'on voit, on voit les vides qui se deviennent de plus en plus vides, et donc les galaxies vont vers du vide vers le filament. Donc en effet, il y a une vitesse qui est due à ce vide, mais il y a aussi l'attraction du filament. Donc c'est exactement ça qui se passe.
C'est une réalité.
Oui, je pense que c'est vrai que le genre d'outil qui est développé là, c'est quelque chose d'assez magnifique pour se voyager dans
l'univers. Pour modéliser. Alors c'est vrai qu'en radio, on n'a pas les représentations, mais Céline, je suis sûr que vous avez pris quelques photos et que vous allez pouvoir en mettre.
Oui, vous pourrez même voir sur Twitter la simulation de ce Cosmic Web où on voit tous les super amas, notre banlieue et tous les amas autour.
Et puisque cette galaxie est mouvante, et qu'on le disait tout à l'heure, la galaxie d'à côté Andromède est finalement assez proche. Elle est à quelle distance exactement?
Elle est moins d'un million, enfin moins de 2-3 millions d'années-lumière.
Et donc, notre destinée, c'est de fusionner avec Andromède?
Ah oui, oui, d'ailleurs, il y a des simulations numériques qui le prédisent. On connaît à peu près la vitesse, 100 km par seconde, etc. Et donc, on peut prédire, on le saura mieux d'ailleurs, Gaïa, avec les mouvements propres, exactement, puisqu'on a la vitesse radiale, on n'a pas tout à fait la vitesse dans le plan du ciel. Mais on peut penser que dans 2-3 milliards d'années, on aura une collision entre les deux galaxies.
Une collision, ça veut dire que ça va être violent? Ça se passe comment, la fusion de deux galaxies spirales, hein, puisqu'Andromède est une galaxie spirale aussi?
Oui, peut-être le mot fusion est peut-être plus approprié que vraiment collision, parce que collision, on a l'impression que ça va être quelque chose d'assez cataclysmique, mais ça va plus être un mélange d'étoiles, donc les galaxies vont se déchirer, s'étirer par effet de marée, et on aura donc des étoiles qui vont se mélanger les unes aux autres.
Mais avec de la destruction de matière, avec de la fusion de matière, ça va se passer comment?
Il y aura ce que je disais tout à l'heure. À ce moment-là, le gaz, c'est le gaz surtout qui va être très perturbé. Donc il y aura certainement des flambées de formation d'étoiles, pas dans le gaz, des deux galaxies.
Et un dernier mot à propos de cette fusion. Ça veut dire qu'à la fin, il va y avoir une nouvelle super galaxie qui va émerger, Françoise Combes.
En général, la fusion de deux spirales fait plutôt une elliptique, parce qu'elles n'ont pas le même axe de rotation, donc la rotation finale elle va plutôt s'annuler. Donc en général, les galaxies elliptiques ne tournent pas beaucoup, donc c'est un petit peu ça qui va se passer, parce qu'on n'est pas très aligné, justement. Donc on va perdre un peu de la rotation et on va avoir un gros bulbe.
Il faut dire que personne ne sera là pour voir ça, en tout cas sur la planète Terre.
Oui.
Parce que le Soleil passe en supernova, donc on est en géante rouge en combien de temps?
Peut-être dans 4 milliards d'années. Donc non. Il y aura peut-être encore des gens sur Terre pour voir ça.
La civilisation des méduses.
Si c'est pour eux, si c'est pour construire un drugstore dans la proche banlieue d'Alpha du Centaure. Si c'est pour semer au firmament des cités dortoirs, des cités snack bar, de néon et de ciment, je ne suis vraiment, vraiment pas d'accord. Est-il bien important de faire tant d'efforts pour retrouver un jour des siècles-lumière, ce qui me donne envie de me tirer de la terre? Nom de nom, je vous demande, nom de nom, je vous demande, nom de nom, je vous demande, à quoi ça sert? Si c'est pour regarder en astrovision le tout dernier cashbox qui nous vient d'Orion. Si c'est pour voir les Cassiopéens, pour nous étonner, se mettre à chanter en laissant pousser leurs mains, je ne suis vraiment, vraiment pas d'accord. Est-il bien important de faire tant d'efforts pour importer du bruit du fond de l'univers? Nous avons, Dieu merci, ce qu'il nous faut sur la terre. Nom de nom, je vous demande. Nom de nom, je vous demande. Nom de nom, je vous demande. À quoi ça sert? Sommes-nous vraiment sûrs de faire plaisir aux amants d'Andromède, à ceux de la Lyre, qui ne trouvent leurs mots les plus doux? Tous leurs mots d'amour, leurs mots de toujours, qu'en levant les yeux vers nous, je ne suis vraiment, vraiment pas d'accord. Est-il bien important de faire tant d'efforts pour décevoir ces gens qui croient dur comme fer que leur âme s'envole au paradis sur la terre?
Voilà la voix de Juliette Gréco dans Alpha du Centaure. Il est 16h36 sur France Culture. Vous pouvez nous suivre toujours, la méthode scientifique, sur Twitter, en direct, en suivant le compte @laméthodefc. Nous parlons de la Voie lactée tout au long de cette heure avec Françoise Combes, astrophysicienne, professeure au Collège de France, et Céline Rélé, astrophysicienne à l'Observatoire des sciences de l'univers Theta de Franche-Comté, Bourgogne. Et après avoir fait, pendant la première partie de cette émission, une sorte de carte d'identité, de bilan un peu de l'état de nos connaissances sur la Voie lactée. Nous allons donc maintenant parler du satellite Gaïa qui a livré ses premières informations. Je disais en présentation de cette émission, le premier volume de l'encyclopédie à naître au cours de cette mission Gaïa. Alors, qu'est-ce qu'on en attend précisément, Céline Rélé, vous qui travaillez pour cette mission Gaïa et pour l'Agence spatiale européenne, qu'est-ce qu'on attend de ce jeu de données colossal qui va être mis à disposition des astrophysiciens et des scientifiques?
Énormément de choses. Le but premier de Gaïa, c'était vraiment d'étudier les étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée, donc de comprendre la structure, la formation, l'évolution de la galaxie. Mais c'est un satellite qui observe tout le ciel et qui ne sélectionne pas ce qui lui passe devant la lunette. Donc il y a également des galaxies qui vont être observées, des quasars, des exoplanètes, des planètes, des astéroïdes, etc.
Alors je vais poser la question différemment. Qu'est-ce que vous, l'une et l'autre, iriez chercher en premier? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous semble le plus intéressant, le plus mystérieux, le plus attendu? Je ne sais pas, Céline Rélé.
La grande force de Gaïa, c'est la mesure des distances, qui est quelque chose de très très compliqué. Quand on regarde la voûte céleste, on a l'impression que les étoiles sont posées sur une toile. Donc on voit le ciel en fait en deux dimensions, et la distance, c'est une mesure assez compliquée à faire, la distance des astres, des étoiles. Et donc c'est vraiment cette cartographie en trois dimensions qui va un peu nous ouvrir les yeux.
Françoise Combes.
Oui, c'est exactement cela, comme dit Céline. On n'a pas vraiment une représentation à trois dimensions. Donc la distance, la troisième dimension, est importante. Donc par astrométrie, on va avoir la distance de 1 milliard d'étoiles, donc évidemment un peu plus proche, pas tout à fait dans le plan de la galaxie puisque c'est tout à fait encombré et plein de poussière, etc., mais en dehors du plan. Et on aura aussi des mouvements propres, on aura des vitesses, on aura beaucoup plus. Normalement, ce qu'on a aujourd'hui, c'est la position, deux positions XY dans le plan du ciel, et puis la vitesse radiale, 3, alors qu'on a besoin de 6 grandeurs, la vitesse à 3 vecteurs. Donc ici, on aura beaucoup plus pour faire un modèle, par exemple, de la barre, comment la barre s'est formée, comment les spirales se forment. Donc on a besoin de toutes les vitesses et toutes les positions à trois dimensions. Donc là, on aura beaucoup plus pour connaître la formation.
Parce que la mission de Gaïa, je disais, c'est le premier volume. En fait, elle commence tout juste, enfin elle vient de livrer ses premières données, mais elle va s'étaler sur combien de temps elle va donner quel type de résultats au final?
Observer pendant 5 ans. Donc là on a les données après un an d'observation. Et donc au fur et à mesure que Gaïa sonde le ciel, elle repasse plusieurs fois en fait sur les mêmes régions du ciel, ce qui permet d'avoir des mesures plus précises. Donc à l'heure actuelle, dans le premier catalogue, là on a des distances pour 2,5 millions d'étoiles seulement.
Seulement.
Voilà. Et bon, on attend des distances alors plus ou moins précises pour un milliard d'étoiles, et également aussi toutes les vitesses radiales, vitesses sur le ciel, également les couleurs des étoiles, ce qui va nous apporter des informations sur leur atmosphère, sur leurs paramètres physiques, les températures, les abondances, ce genre de choses pour un certain nombre d'étoiles. Donc on aura vraiment beaucoup de matière pour comprendre la physique des étoiles, qui sont en fait les blocs de base des galaxies, de notre galaxie.
Et ce qu'il faut préciser, c'est que Gaïa, il y a beaucoup de capteurs, beaucoup d'appareils, 106 capteurs, un appareil photo d'une résolution d'un milliard de pixels. J'ai vu que Gaïa observait quotidiennement 50 millions d'étoiles, donc c'est tout ça est gigantesque. Et avec une triple analyse, c'est ce que vous disiez, Françoise Combe, une analyse astrométrique, photométrique, spectroscopique. Mmh. C'est vraiment la première fois qu'on va avoir tout ce type de données complémentaires sur la galaxie.
Le nombre et la grande précision, parce que bon, on a déjà quand même des vitesses des étoiles, on a quelques... Hipparco, ça avait déjà fait un tout petit peu la banlieue du Soleil.
Qui était la mission précédente.
Voilà, la mission précédente. Donc on a un tout petit peu, mais là c'est un milliard, ça n'a jamais été fait. Et puis la précision, déjà on a la position d'un milliard d'étoiles. Hein. Les images que vous avez vues là sont très très précises. On a un milliard seconde de précision. Donc j'ai regardé en fait, moi je m'intéressais à Andromède par exemple. Et j'ai vu Andromède, en effet, on a vu une précision terrible sur déjà l'image Andromède. Alors évidemment on n'a pas le bulbe. Ce qui est très curieux, mais enfin, c'est parce que il est trop encombré, et donc lorsque Gaïa passe, il n'arrive pas à compter à la vitesse où il passe, il n'arrive pas à compter lorsque le champ est encombré. Donc ce qui est très très bien, parce qu'on voit le disque d'Andromède, on ne voit pas le bulbe, c'est encore mieux.
Et ici, vous venez de le dire, hein, vous dites seulement 2,5 millions d'étoiles pour le moment, enfin, à la fin de la mission, plus d'un milliard d'étoiles cartographiées, ça représente un amas de données, une quantité de données considérable. Il va falloir combien de temps pour traiter toutes ces informations?
Alors si on fait ça avec un PC classique, à peu près 300 ans. Donc heureusement, donc on s'est organisé, il y a un consortium qui a été monté justement pour préparer, même avant que Gaïa soit sur le ciel, observe le ciel, préparer déjà tous les outils de traitement des données, d'analyse des données. Et donc il y a déjà eu tout un pré-traitement qui a été fait là avant que le catalogue soit délivré à la communauté pour vérifier que les données étaient correctes et valider la qualité de ce premier catalogue. Mais là, je pense que c'est des données qui vont occuper quelques décennies. On voyait Hipparcos, donc un satellite qui était l'équivalent, disons, le dernier satellite astrométrique, qui a livré les données en 89. C'est on voit encore apparaître des publications avec ces données Hipparcos. Une trentaine d'années après. Donc là, on peut imaginer que les données Gaïa vont occuper les astronomes. Quelques années.
Je vais essayer de reposer quand même une nouvelle fois ma question de tout à l'heure. Quand vous avez reçu ces données, vous, qu'est-ce que vous êtes allé chercher en premier? Qu'est-ce que vous êtes allé regarder d'abord en disant waouh, voilà, sur cette quantité de données-là, qu'est-ce qui vous a intéressé, Sinaëlle?
La première chose qui était intéressante, c'était vraiment de voir ces distances. Donc on s'est amusé à faire notamment, peut-être la première chose, c'est un petit diagramme Hertzsprung-Russell, donc qui va donner la magnitude absolue de l'étoile en fonction de sa couleur ou de sa température. Et donc cette magnitude absolue, c'est en fait la magnitude qu'aurait une étoile si elle était placée à une certaine distance, qui est 10 parsecs. Et si on a la distance, on peut s'amuser à faire ce genre de petits diagrammes qu'on voit dans nos livres.
Et vous, Françoise Combe?
Moi, je me suis contentée de voir la position des milliards d'étoiles. Je peux encore essayer d'accéder aux 2 millions de vitesse et de distance. Donc déjà, la position, c'est magnifique parce qu'on a énormément, enfin, on peut dézoomer et voir des petites régions avec énormément de précision. Donc il y a par exemple Andromède, mais il y a d'autres galaxies qu'on a vues, des amas globulaires, qu'on voit avec une très très grande précision. Donc déjà, les positions du milliard d'étoiles, c'est fantastique.
Et vous le disiez, on voit donc la position, on voit surtout cette carte en mouvement, ce qui est important de comprendre les mouvements au sein de la galaxie, ce qui va donner lieu aussi à énormément d'analyses. Mais Gaïa va nous renseigner aussi sur d'autres types d'astres, vous le disiez, sur les exoplanètes, sur les géocroiseurs. On va avoir vraiment une cartographie à ce point-là de précision, Céline Rélé ?
Oui, bah pour tous les astres, on a vraiment une très bonne cartographie. Et encore une fois, c'est le nombre qui est énorme, puisqu'on s'attend à, je ne sais plus, c'est plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers d'astéroïdes, des millions de quasars, ou un million de quasars. Donc à chaque fois, c'est vraiment un échantillon de données qui est énorme et qui va permettre de faire des études, notamment des études statistiques, et de bien comprendre ces astres.
Et si on a dit que l'image était effectivement extrêmement précise, je crois que si on avait positionné Gaïa sur la Lune, on pourrait mesurer la taille de l'ongle d'un être humain, donc ça vous donne l'idée quand même de la précision de l'instrument. Est-ce que vous pensez, notamment, je pense aux exoplanètes, on parle beaucoup des exoplanètes, on a beaucoup entendu parler de Proxima B qu'on vient de voir juste à côté de chez nous, à 4 années-lumière et demie autour de Proxima du Centaure, est-ce que la précision des instruments de Gaïa va permettre par exemple de détecter des biosignatures ?
Alors non, pas des biosignatures. Ce que va pouvoir faire Gaïa, c'est détecter des mouvements d'étoiles induits par la présence d'une planète autour de cette étoile. Donc Gaïa va découvrir énormément d'exoplanètes. Mais de manière indirecte.
Françoise Combes.
Oui, ça, les exoplanètes, on ne peut pas les voir. Hein. Ils ne sont pas assez brillantes. Donc elles ne font que réfléchir à leur étoile. On voit l'étoile, mais on ne voit pas la planète. Donc c'est simplement, en effet, qu'on a beaucoup de précision et des mouvements très précis qui font reculer, la planète fait reculer l'étoile et on voit l'étoile bouger.
Alors dans cette immense photographie en trois dimensions, on aperçoit les étoiles bien sûr, même certaines étoiles les plus brillantes des galaxies proches, c'est ce que vous disiez à propos d'Andromède, mais il y a aussi des grandes zones sombres et des zones qui sont tout aussi intéressantes parce qu'il s'agit, on en a parlé tout à l'heure, de nuages de gaz. Écoutez ce qu'en dit Pierre Cox, c'est un extrait du film « Voir naître les étoiles » de 2009 de notre partenaire le CNRS Images.
Lorsque vous regardez la Voie lactée par une belle nuit d'été, vous voyez beaucoup d'étoiles, c'est laiteux, d'où le nom de Voie lactée. Et entre ces étoiles, il y a des plages sombres où il n'y a pas d'étoiles, où il semblerait qu'il n'y ait pas d'étoiles. Ces plages sombres tracent l'endroit où il y a des nuages de gaz et de poussière. Ce sont des nuages qui se trouvent entre les étoiles. Ces nuages qui sont très denses absorbent la lumière des étoiles, la lumière visible, et donc deviennent opaques, deviennent sombres, à tout observateur qui a des yeux qui regardent dans le visible. En astronomie, il y a des méthodes pour sonder ces nuages en regardant une émission qui s'appelle l'émission millimétrique, qui permet de transpercer ces nuages et de regarder ce qu'il y a en leur cœur et de dévoiler en fait les mystères qui sont cachés par cette masse très dense de gaz et de poussière. Ce qui se passe en leur centre, c'est toute cette matière qui est distribuée entre les étoiles. Et c'est la matière à partir de laquelle les étoiles se forment. Et donc on peut littéralement faire une cartographie, on peut voir comment le nuage bouge. Une étoile se forme par effondrement du nuage, et donc on peut voir par exemple le nuage s'effondrer et comprendre que là-dedans il y a une étoile qui soit est en train de se former ou soit qui vient de se former, donc qui est très jeune.
Voilà, vous pourrez retrouver la vidéo complète sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et puis, pour aller plus loin également, la vidéo embarquée de la semaine du CNRS Images, toujours cette semaine, c'est « Quel destin pour la Voie lactée ?» Voilà la vidéo que vous pouvez retrouver sur notre site. Donc, on l'a dit tout à l'heure, ces nuages de gaz, c'est ce qui fait que notre Voie lactée est encore vivante. Mais on parle de Gaïa comme d'un arpenteur de la galaxie. C'est aussi un archéologue. Qu'est-ce que Gaïa va pouvoir nous apprendre sur les origines de la Voie lactée, Céline Rélé?
Donc la force de Gaïa, c'est à la fois donc cette cartographie en trois dimensions, le nombre d'observations, mais aussi effectivement les vitesses qui nous donnent en fait une information sur ce que va devenir la galaxie. Mais si on rembobine, ça peut nous donner aussi une information sur ce qu'elle a été auparavant et comment elle s'est formée.
Comment on rembobine les images de Gaïa, par exemple?
Alors, quand on a les vitesses des étoiles, on peut remonter un peu à comment elles se déplacent dans la galaxie, et essayer de retrouver comment elles étaient, où elles étaient par le passé. Mmh. Et ensuite, si on analyse cela, on ne regarde pas étoile par étoile, mais vraiment les populations d'étoiles, on a des populations qui sont plus vieilles que d'autres dans la galaxie, avec des compositions chimiques un peu différentes, qui aussi dépendent de l'âge. Et on arrive un peu, avec toutes ces données, à la fois la cinématique, donc les mouvements, la chimie des étoiles, leur âge, à comprendre quel âge a cette population, comment elle s'est formée, etc.
On disait tout à l'heure, Françoise Combes, que c'est un peu obscur, les débuts de notre galaxie. Comment Gaïa va pouvoir nous renseigner à ce propos-là? Qu'est-ce qu'on va aller chercher?
En fait, je suis en train de poser la question, parce que Gaïa, on ne peut peut-être pas avoir rembobiné pendant très longtemps, parce qu'en fait, il faut supposer que les vitesses n'ont pas varié. Elles doivent avoir une accélération, et ça, on n'en sait rien. On n'aura pas l'accélération, on pourra juste extrapoler un tout petit peu. Mais l'accélération, on l'a pas, surtout qu'il y a beaucoup de nuages, il y a beaucoup de gaz. Par exemple, on sait, en regardant les autres galaxies extérieures, qu'elles avaient la moitié de l'âge de l'univers, la moitié de la masse était en gaz. Aujourd'hui, c'est 5% de la masse. Donc il y a beaucoup de gaz, ces zones sombres dont on parlait tout à l'heure avec Pierre Cox. Et donc c'est maintenant, les étoiles sont formées à partir de ce gaz, et ça, on va pas le savoir avec Gaïa. Hein. Gaïa est énorme et magnifique, mais il y a quand même une limite. Je pense que on va pas pouvoir savoir de combien de morceaux est fait la Voie lactée, combien de galaxies ont fusionné pour donner la Voie lactée. Ça, je crois que c'est encore les simulations numériques qui pourront faire des modèles, mais Gaïa ne va pas nous le donner, en fait.
Je pense qu'on va quand même avancer un petit peu, pas seulement avec Gaïa, mais justement, on entre dans une ère aussi où on a la spectroscopie pour un grand nombre d'étoiles, donc des relevés spectroscopiques qui, eux, nous apportent des choses complémentaires à Gaïa. Gaïa va apporter les distances, les déplacements. Et ici, avec ces grands relevés spectroscopiques qui vont observer les mêmes étoiles, on aura aussi la composition chimique. Et en fait, avec l'astérosismologie aussi, on a des informations sur le cœur des étoiles. Donc c'est toutes des pièces qu'on peut essayer d'assembler. Alors effectivement... On va certainement ouvrir plus de questions que le nombre auquel on va répondre, mais je pense qu'on va quand même, on va quand même avancer vers une meilleure connaissance de l'histoire de la Voie lactée.
Parce qu'à chaque fois, on pense que on va trouver, par exemple, un gradient de métallicité parce qu'il se forme plus d'étoiles au centre.
Un gradient de métallicité.
Oui, voilà. Excusez-moi.
Non, pas du tout. Au contraire.
Parce qu'en fait, la métallicité, ce sont les éléments lourds comme le carbone, l'oxygène, l'azote, ce qu'on appelle les métaux en astrophysique. Enfin, c'est pas vraiment des métaux. C'est quelque chose qui est plus lourd que l'hydrogène ou l'hélium. Et donc, ça se forme au cours du temps. Donc, plus une étoile est assez vieille, plus elle va former des métaux. Elle va rejeter aussi dans le gaz, etc. Donc on s'attend, comme il se forme beaucoup plus d'étoiles au centre de la galaxie, qu'il y ait plus de rejets, donc plus de rejets d'éléments lourds. Et donc l'enrichissement est plus grand au centre qu'au bord. Et puis finalement, on s'attendait à voir ce gradient, c'est-à-dire beaucoup plus d'éléments au centre qu'au bord. En fait, c'est pas vrai, parce qu'il y a de la migration, en fait. Les gaz et les étoiles migrent dans la galaxie, il y a des flux de gaz. Et finalement, on retrouve des étoiles vieilles et pleines de métaux au bord, alors qu'on s'attendait à ce que, comme elles accrètent du gaz et filaments, ce soit jeune et puis très peu enrichi.
Ça veut dire qu'une étoile, au cours de sa vie, peut changer de branche de la spirale, par exemple?
Oui, justement, le Soleil en est un exemple. Hein. On pense que le Soleil n'est pas du tout né là où nous sommes aujourd'hui. Parce que, justement, le nuage de gaz qui est autour du Soleil, il a plutôt la même enrichissement que le Soleil. Ça ne devrait pas, puisque le Soleil a 4 milliards d'années. Donc le Soleil, il est plutôt un vestige, une trace de ce qu'était le gaz il y a 4 milliards d'années. Donc ça ne peut pas être au même endroit. Donc on pense que le Soleil est né plutôt près du centre, et ensuite a migré vers l'extérieur. Et on a, comme par hasard, à peu près une métallicité solaire dans le gaz.
Et alors, tout récemment, l'Observatoire Vista a mis au jour des étoiles particulières, des étoiles très très anciennes de type RR Lyrae, au centre de la Voie lactée. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et pourquoi c'est important, Françoise Combes?
Alors, je pense que les RR Lyrae, en effet, sont des objets très utiles pour dater un petit peu. Ce sont des objets qui ont des périodicités aussi, qui donc sont très faciles à voir. Et on peut dater que ce sont des vieilles populations. Donc, très souvent, on a par exemple des courants de marée qui viennent d'un petit compagnon et qui sont très reconnaissables. On n'est pas en confusion avec l'étoile de la Voie lactée parce qu'elles ont ces fameuses RR Lyrae.
Redites-nous en deux mots ce que c'est RR Lyrae pour les auditeurs.
Alors, c'est une étoile, facile pour compléter, je pense, je ne suis pas spécialiste de ces étoiles, mais c'est des étoiles qui pulsent, en fait, qui ont certaines pulsations.
Et qui sont difficiles à observer parce qu'elles sont très sombres, c'est ça, si j'ai bien compris, c'est une RLA?
Alors, je ne sais pas exactement si elles sont difficiles à observer, mais donc, oui, effectivement, des étoiles qui varient, qui sont à un stade d'évolution assez avancé et donc ont ces modes de pulsation. Et ce qui est intéressant, c'est que notamment là, il y a une étude qui a déjà été publiée par le consortium Gaïa sur la distance d'étoiles RR Lyrae et Céphéide, qui sont en fait un peu, qui servent un peu de chandelle standard pour mesurer les distances dans la Voie lactée, mais aussi dans l'univers.
Des chandelles standards, redites-nous, pareil, là aussi, il faut redire ce que c'est qu'une chandelle standard.
Alors, ce sont des étoiles, encore une fois, qui, grâce à leurs observables, donc ici, ça va être leur luminosité, leur période.
Qu'on connaît.
Voilà, leur période. Leur période de variabilité, donc ce sont des choses qu'on peut observer. À partir de ça, on peut remonter à leur luminosité intrinsèque, c'est-à-dire leur puissance. Et la différence entre ce qu'on observe et la puissance émise, c'est simplement une fonction très simple, c'est proportionnel à l'inverse du carré de la distance.
D'accord, donc là c'est un peu
donc,
technique,
mais
en gros ce seront en fait des phares dont on connaît, dont on sait voilà, le comportement, on connaît leur comportement, c'est pour ça qu'on les appelle chandelles standards, parce que ça permet juste de les utiliser comme référents pour le reste des observations cosmologiques.
Et au-delà de la Voie lactée, donc on arrive là à arriver à contraindre les contraintes pour le modèle cosmologique.
Et donc l'importance de cette découverte de ce type d'étoile au centre de la Voie lactée, Françoise Comte, pour conclure.
Alors je pense que peut-être il s'agit d'accrétion de petits satellites qu'on a trouvés. C'est vrai qu'on a par exemple Sagittarius A dwarf qui a été découverte par CRR Lyrae justement. Donc c'est un courant, ça veut dire qu'une petite galaxie compagnon a été détruite par effet de marée et on la voit au centre. Grâce à ces RRR qui permettent de ne pas confondre avec les étoiles de la Voie lactée dessous, sinon on ne les verrait pas, elles sont confondues avec les étoiles.
Et pour conclure toutes les deux, un dernier mot sur cette quantité gigantesque d'informations que va mettre à disposition de la communauté scientifique Gaïa. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous aimeriez y découvrir qui pour le moment, on sait qu'il y a une partie de ces données qui vont surprendre tout le monde. Qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans cette nouvelle cartographie? Qu'est-ce qui vous ferait rêver, Céline Rélé?
Alors, peut-être j'ai pas assez d'imagination, mais moi, ce qui me fait rêver, c'est vraiment avoir comparé après Gaïa les vues d'artistes là, dont parlait Françoise tout à l'heure. Je pense que ça va quand même. On va voir des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Ce qui pourrait être sympathique aussi, c'est de découvrir un type d'étoile inconnu, parce que nous, pour le moment, on observe ce qui se passe dans le voisinage solaire, mais on peut imaginer qu'il y ait des étoiles de type totalement inconnu qu'on n'a pas encore découvert et qui sont dans cette masse de données. Il n'y a plus qu'à aller fouiller dans la boîte de foin.
Françoise Combe.
Oui, alors moi j'ai plein de modèles en tête parce qu'on a fait des simulations numériques pour faire apparaître cette barre. Donc on a la vitesse des étoiles dans la barre. On sait qu'il y a une cacahuète par exemple.
Une cacahuète.
Oui, c'est une bulle de foin qui est due au fait justement que la barre a soulevé les étoiles et a un certain rayon qui sont la résonance. Et donc ça fait des cacahuètes. Mmh. Donc on a fait des prévisions. On aimerait bien que les données Gaïa soient exactement compatibles à nos prévisions. Donc ça serait génial.
Et si c'est pas tout à fait compatible, c'est génial aussi.
Ah oui, parce qu'on refera un autre modèle et puis on va tout mettre en chantier.
Eh bien, merci infiniment à toutes les deux. On va pouvoir en reparler de ces données Gaïa, parce que, comme on l'a entendu, il y a vraiment énormément d'informations qui vont nous parvenir et qui vont être analysées par la communauté scientifique, les astrophysiciens, mais aussi les physiciens, les mathématiciens. Bref, il va y avoir du travail dans ce domaine-là et dans l'exploration de la Voie lactée dans les prochaines années. Merci beaucoup, Céline Rélé. Merci beaucoup, Françoise Combe, d'avoir accepté notre invitation. Et merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Céline Nozen, Léo Quentin, Antoine Beauchamp à la réalisation, Elisabeth Miro à la technique, Alex Dang et au droit d'auteur, Thomas Bizot. Demain, nous parlerons d'une autre révolution dans le domaine médical cette fois. Comment la bio-impression nous promet pour les années à venir des organes et peut-être un corps humain en pièces détachées. Dans un instant, regardez bien si vous n'avez pas été suivi. Deuxième dose de LSD, la série documentaire orchestrée par Perrine Cavran et Amaury Chardot consacrée cette semaine à l'espionnage. Et nous, on se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.